France Culture.
À toi, tu nous reçois ? Si tu nous reçois, on te laisse ce message. Last call, depuis la radio. Depuis la radio, dans l'éther. Écoute.
Je vais juste m'éloigner derrière le 4x4, tu vois, peut-être que je vais avoir la résonance là, un peu plus loin. Et tu mets des bouchons d'oreille quand même pour protéger, non? Je me mets là, moi. Là, c'était bien.
À ce moment-là, nous étions vivants.
Alors.
Extrêmement vivants. Pour toujours. Pour une journée.
Voilà, la pièce maîtresse, c'est la valise radio.
Des pianistes.
Des pianistes qui pèsent entre 15-16 kilos quand même. Donc. Transportable, mais c'est lourd quand même.
Radio Glovette.
Radio Glovette. Vous êtes en Bourgogne, la résidence ?
Au Glovette ?
Oui.
Ça peut accueillir 5000 personnes.
Ah oui. Là, en ce moment...
On sait rien.
Ça a l'air un peu désert, quand même.
Ouais.
Au Glovette, je suis venue à plusieurs reprises. La première fois, c'était en novembre. On ne comptait pas encore l'orage.
J'ai juste une question. Bonjour, je travaille sur la mémoire de Léa Blin, là, des résistants.
Oui.
Vous connaissez un peu son histoire ?
Oui. Il est d'ici. Il est des Clos. Gilles.
Les Glovettes, c'était avant d'être ça, c'était un hameau, c'était une grange, c'était quoi ? Quand elle est morte, je veux dire, c'était quoi ici ?
Il y avait une ferme. Il y avait une ferme en bas. Ouais.
Mais elle n'est pas morte ici.
Elle n'est pas morte ici ?
Ah non, Léa Blin.
Non, Blin. C'est pendant la guerre.
Léa Blin ?
Léa Blin, la stèle est là.
Ouais.
Vous allez voir.
Combe.
Vous avez chassé quoi ce matin ?
Hier.
Et elle avait, ouais, c'est ça, 22 ans.
22 ans, oui. Putain, blanc.
Et elle était chiffreuse. Moi, je croyais qu'elle était radio, pianiste. Elle était chiffreuse.
Vous vous occupez de ça ? Moi, j'aime bien ça.
Alors, un des problèmes des radios, à l'époque, en 1940-44, c'était de trouver un endroit pour faire une émission, trouver quelqu'un qui soit d'accord pour prêter son appartement, sa maison, et qui prenait des risques très importants en cas d'arrestation, par exemple.
Vas-y.
Oui, parce que ça serait quand même bien qu'on ait un dégagement à peu près correct pour l'antenne. On va essayer de faire une liaison. On va être dans les conditions de l'époque.
Bonjour.
Ah bah c'est pas mal ça. On va installer la valise ici. On va faire monter l'antenne ici. On la sortira par là.
Ok.
On essaye.
Ça marche.
Ok, allez, en avant.
F6 GNK.
GNK, F6 Golf November Kilo.
Donc Louvette, je suis venue à plusieurs reprises. La première fois c'était en novembre. On ne sentait pas encore l'orage. À ce moment-là, nous étions vivants.
Et vous, vous êtes là depuis l'enfance?
Ah oui,
depuis
oui,
la naissance.
Oui, 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 j'ai fait agriculteur là, donc après, je ne sais pas si je vais rester, ça évolue beaucoup, hein, Villard. Même à l'époque, ça ne ressemblait pas du tout à ça, au Glovette. Hein. Ça ne ressemblait pas du tout à ça, il n'y avait pas l'immeuble, il y avait une ferme dans le creux là-bas, en dessous de l'immeuble là-bas. Je me souviens vaguement d'une dame, ouais. Mais bon, j'ai connu tout gamin, je devais avoir 4 ans, 5 ans. Hein, parce qu'elle avait des prés dans la fosse, donc elle montait avec ses vaches pour la journée, là, passait par les clos. Mais oui, je ne saurais pas la décrire, quoi. Hein. C'était la ferme des Glovettes, quoi, là-bas, les Glovettes, où il y a l'immeuble maintenant. Elle avait 3 filles. Bah, c'est de la famille Bouvier, l'autre, c'est comment déjà? Rosan, au Guillet, je ne sais pas si vous êtes passé là-bas. C'est un petit enfant, la dame qui avait la ferme. Petit-fils, quoi. Ouais. Voilà, bah, lui, il vous expliquera des trucs aussi, je pense. Parce que peut-être que, ça, comme ils n'ont pas été vraiment touchés, voilà. Les parents, grands-parents leur ont peut-être raconté, comme à Yves, quoi. Possible, hein. Parce qu'eux, ils n'avaient pas été touchés, quoi, par la guerre, on va dire.
Pourquoi pas toucher, je crois.
Bah, ils n'ont pas eu de perte, quoi, dans leur famille, quoi, voilà. Ouais. Conclo, bon, il y a eu 2 au Courberia, des jeunes de 20 ans, donc bon, voilà, quoi, les familles au Clos avaient vraiment été touchées, quoi. Que eux, non, donc peut-être que, voilà, leurs grands-parents parlaient mieux, quoi, voilà, ouais. Ils étaient moins bloqués, on va dire.
Je te fais juste écouter quelque chose.
Eh bien, donc j'avais Long m'avait donné le commandement de l'équipe radio. Et nous étions en effet fort occupés car il m'avait chargé de toutes ces liaisons avec Alger et Londres. Et Descour, commandant la région R1 et R2, avait ordonné que toutes les demandes de matériel passent par la mission Eucalyptus. Donc beaucoup de messages. Et nous avions beaucoup de travail. Alors on m'a adjoint un maquisard appelé Bourdon, qui avait été radio, donc qui pouvait également transmettre.
Tu sais qui c'est?
Pareil, peut-être, non? Bavarois. Donc c'était un Américain, en fait, qui travaillait pour l'OSS. Et qui commandait en fait, qui avait la responsabilité de la cellule radio. C'est très émouvant de l'entendre parce que j'ai lu pas mal de messages qu'il avait envoyés et reçus, et j'avais jamais entendu sa voix. Et ma foi, c'est quelque chose d'assez émouvant, surtout au Glovette.
Comme d'habitude, je cherche à réunir des pièces, comme une enquête.
Encore une fois, j'avais documenté le lieu, compilé des archives.
Transmettre, c'était parfois assez difficile, car toutes les 10 minutes, il fallait changer de fréquence.
Changer de fréquence.
On pouvait être opéré par l'ennemi. Et comme vous le savez, les radios étaient pratiquement le seul moyen de contact avec l'extérieur.
Moyen de contact.
Donc les Allemands tentaient de nous localiser.
De localiser.
Et de temps en temps, même, nous avions des avions espions qui passaient au-dessus de Saint-Martin, au-dessus de la ferme, et on interrompait les émissions.
On interrompait les émissions.
Et toutes les 10 minutes, on changeait de fréquence.
On changeait de fréquence.
Changer de fréquence, c'est-à-dire qu'il fallait de nouveau établir le contact.
Parfois,
c'était un peu difficile. En principe, au d'accord, c'était cependant aisé car je me trouvais dans une vallée orientée du nord, Londres, du sud, Alger. Et étant à environ 700 mètres, donc sur une certaine hauteur, le contact était plus aisé. C'était toujours la même personne qui correspondait avec la radio déterminée.
Radio déterminée.
La façon dont il envoyait. Par exemple, moi, quand j'envoyais, par exemple, un da, sur ce mot-là, je traînais un peu.
Alors,
quand j'ai la marche, et je savais que la radio avait été améliorée,
je connaissais la marche.
Ce n'était pas la marche que j'entendais. Nous avions des repères, nous avions des codes indiquant que l'on transmettait sous contrôle ennemi.
Sous contrôle ennemi.
Sous contrôle ennemi.
Sous contrôle ennemi.
Plusieurs fois. Non, mais même là, je pense qu'il faut y lire aussi. Me réconforter. Après-midi, assez tard, alors que plusieurs fois les gens nous avaient alertés, disant que les Allemands revenaient et que nous avions entendu parler de coups de feu. Arrivé à 2 kilomètres du bourg, une dame nous arrête et nous annonce que les Allemands ont abattu au Glovette un homme et une femme.
Elle était avec un garçon qui s'appelait Rémi Fitch, que j'ai connu, qui était un Israélite, qui pour des raisons de race et de patriotisme était rentré dans la résistance. Son compagnon Rémi a fui vers les Glovettes, là où il y a maintenant le Valcamp Villard-de-Lans. Et on lui faisait signe de continuer à se promener, comme si elle était une promeneuse, une paysanne promeneuse. Mais elle, en voyant son compagnon menacé, elle a tiré de son sac son petit revolver, qu'elle avait son revolver, elle a abattu un officiel.
C'est fini. Voilà.
Et ça, c'était un résistant, Philippe Blanc, qui travaille aussi pour la Croix-Rouge.
Ah ben.
Voilà, qui fait ce témoignage. Alors.
Oui.
Ouais.
Non, moi ça, je me rappelle pas parce que moi j'étais trop jeune. Voilà.
Ben oui. Ben merci beaucoup, voilà. Bernadette.
Oui, mais sachez que ma belle-mère, elle m'avait dit qu'il l'avait tout vraiment mutilé, tout ça. Elle m'avait raconté que c'était, atroce. Ben, c'était pas très loin, hein, parce que là, prenez le chemin, et c'est tout pas loin.
Et la ferme des Glovettes n'existe plus, il n'y a plus de traces.
Ah non. Moi, je sais où elle est, mais quand vous prenez le chemin, vous voyez un endroit, il y a Parce que là-haut, au Glovette, c'était une dame qui était veuve. Oui. Elle s'appelait Virginie, on disait toujours la Vierge. Oh, c'est tellement loin que...
Messagerie Orange, bonjour. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Veuillez laisser votre message après le bip.
Oui, bonjour. Je voulais vous contacter. J'appelle la police municipale de Villars. Si vous pouvez me rappeler au 06. Je vous remercie. C'est par rapport à une enquête. Bref, je vous raconterai. Merci beaucoup.
Au Glovette, je suis venue et revenue. Le lieu est chargé. La mémoire se brise partout. Dans les bûches, sous le rond-point. Le 1er août 1944.
En tout cas, ça hante l'esprit des lieux, cette histoire de la résistance. On se la raconte. Y a un récit qui est fait. Et au Glovette, cette stèle qui trône au milieu...
cet ensemble immobilier. Oui.
Et tu vois, on voit cette cérémonie au Glovette avec Philippe Blanc, cette photo où des enfants torse nu.
Ouais.
Elle est complètement folle, cette photo. Tu peux me la décrire, s'il te plaît ?
Ils font une petite tombe, là, on dirait. Ils mettent
mais
des
oui,
petits cailloux.
C'est complètement dingue.
Je n'irai pas te dire où c'est.
Je te relis le passage. Donc au Glovette, les gens rentraient dans leur ferme en nous voyant arriver. Ils sont dans la terreur et ne savent pas à qui ils ont affaire. Nous sommes le 1er août 1944. Pour gagner du temps, nous supplions des enfants de nous accompagner. Ils nous conduisent au corps d'un homme étendu, passablement mutilé, les entrailles passées autour du cou, à quelques 100 mètres du hameau. L'un d'entre eux, donc d'entre les enfants, Patrice Gaillet, reconnaît Rémi, garçon sympathique et courageux, très connu et apprécié à Villars. Fils d'une famille d'Israélites dont le père fait partie de la résistance. Vite, nous préparons une fosse et réunissons tout ce qu'il a sur lui. Nous trouvons une photo dans sa ceinture, la sienne, qui sera remise à sa mère. Il semble que Rémi se soit battu comme un lion. Donc voilà, il creuse une tombe le jour même et on voit les enfants torse nus autour de cette tombe de fortune qui creuse. On dirait qu'ils creusent la terre.
Oui, ou alors qu'ils mettent des petits cailloux là autour. Ça a l'air d'être par ici. Hein. C'est les bois, les sous-bois là. Ça ressemble étrangement. Mais j'arrive pas à lire ce qui est marqué sur la croix. Là.
Et du coup, toi, tu l'as rencontré, Léa, d'une certaine manière ? À cette époque-là, je cherchais un refuge.
Je voulais savoir faire un contact, coder un message, construire un abri, sucer de la mousse, éprouver ma détermination, prendre un nom de code. Éprouver ma détermination, prendre un nom de code. Juste avant l'orage, qu'on est rentré en contact.
Donc Didier Clarençon, je me présente, j'étais médecin militaire et j'ai une passion qui est le radioamateurisme. Donc ça m'a amené à m'intéresser aux radios pendant la résistance et aux opérateurs radio qui ont travaillé dans le Vercors. Donc quand Marie m'a demandé de faire un exposé sur le codage, j'ai tout de suite dit oui, parce que c'est aussi ma passion. J'ai été d'autant plus motivé que le lieu des Glovettes est quand même chargé d'histoire, puisque Marie vous a parlé de Léa Blin, vous voyez cette jeune, jeune femme. Donc elle était chiffreuse, c'est-à-dire qu'elle codait les messages pour un opérateur radio, pour André Péquet, qui avait pour pseudonyme Bavarois. Et j'ai retrouvé dans les archives à Paris un message qui était venu, alors qui avait été envoyé d'Angleterre ou d'Alger, et puis qui avait été envoyé. Alors, donc peut-être que elle l'a décodé en fait, hein, c'est tout à fait possible. Hein. Donc ça, c'est un message qu'elle a reçu pareil, qui a sans doute été décodé par Léa Blin. Donc, je vais essayer. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens ici qui sont familiers du codage. Spécialiste du codage, non ? Personne. Bon. Donc je vous ai recopié des clés. Et si vous utilisez deux fois la même clé, les Russes l'ont fait pour correspondre avec des agents qui étaient aux États-Unis, qui étaient des espions. Et ils ont cassé les codes et ils ont pu démontrer que ces gens-là faisaient de l'espionnage. Ce sont les époux Rosenberg. Ils faisaient de l'espionnage atomique et ils ont été passés à la chaise électrique. Donc c'est important d'avoir un code qui résiste. Hein. Là, c'est une erreur des services secrets russes. À l'époque, les Américains ne rigolaient pas avec l'espionnage, et encore moins avec l'espionnage atomique. Hein. Donc les époux Rosenberg ont été passés à la chaise électrique parce que le code a été utilisé deux fois. Donc ici, vous avez... alors là, vous n'avez pas besoin de loupe, hein, ce sera suffisamment grand. Donc vous avez des groupes de 5 lettres qui normalement ont été tirés au hasard, hein, et qui vont vous permettre de coder votre message. D'accord ? Parce que vous allez avoir travaillé. Voilà. Je crois que... Voilà, merci de votre attention. Donc maintenant, ça va être à vous. J'espère que ça a été clair pour vous, parce que c'est pas facile, mais c'est intéressant quand même de se mettre dans la peau d'un opérateur de l'époque, d'une chiffreuse... qui a fait de 20 ans, de 22 ans, qui a fait ça. Je ne sais pas ce qu'elle faisait avant, Léa Blin, comme...
Elle travaillait à l'école, je crois.
Oui.
Non, elle a... Non, tu sais, elle travaillait à l'usine des parents.
Ou les parents. Oui.
Ouais. Bon, ouais, je ne sais pas si elle avait des prédispositions pour la cryptographie, je ne pense pas.
À ce moment-là, nous étions vivants.
Alors, vous approchez un tout petit peu du micro avec les messages décodés, ceux qui les ont.
Dis-moi où seras-tu ?
Dans la langue des pianistes.
À l'heure où la nuit tombera.
Rendez-vous derrière l'orage clandestin.
Tout le monde fait vibrer comme ça sur cette hauteur-là. Oh.
À ce moment-là, nous étions vivants.
Comme d'habitude, je cherchais des preuves, un crime, un corps. Encore une fois, je convoquais des fantômes, la vie et la mort. Je cherchais encore une fois à m'ensevelir dans la mémoire et dans l'oubli de ce qui fut à cet endroit précis, à ce moment-là, au feu.
chambre ?
Ouais.
Ah, c'est juste au bassin, c'est même pas la ferme.
Ouais.
Vous allez.
Bah, la ferme, on la voit plus du tout.
Voilà. Un peu plus bas que la source, là.
Mais sonnons-la, plutôt.
Ouais, hein? Façon, si s'il n'y a pas de raison de... Enfin, si tu fais pas de photo là-bas devant le néerblin, on s'en fout. Hein.
Sonnons-la.
On sonne ici.
Et tu veux que je te sonne quoi, alors le garde à vous et au moins, ce qu'on joue pour... Parce qu'elle est tombée qu'en 44, elle.
Oui.
Donc, on a dû jouer en 44.
Ah, en 2004,
en
oui.
En 2004.
Il y a eu une grosse
une
commémoration.
Grosse, voilà, ben c'est ça.
Ok.
2004. Bon, tu me dis que...
Last call, à toi. Si tu me reçois, on te laisse ce signal dans l'éther. Last call, je répète. Last call. Si tu es là, reste vivant. Extra vivant.
Donc là, on monte la radio clandestine.
Voilà. Donc là, on a une valise
Glovette.
Qui fait une quinzaine de kilos qu'on devait transporter et essayer de passer les contrôles au niveau des gares et pour amener cette valise dans le lieu d'émission. Ouverture de la valise. Alors la valise que nous allons utiliser est une valise qui s'appelle la valise B2 ou BMK2 qui date de 1943-1944. Voilà, donc ce matériel était parachuté dans des containers spéciaux. Donc on va installer, il faudra installer l'antenne. Donc l'antenne...
C'est une antenne...
Filaire
de l'époque.
C'est l'antenne d'époque, oui, tout à fait. Hein, qui a été utilisée. Alors donc, c'est un poste qui a été utilisé dans le Vercors. Hein, c'est une valise qui vient du Vercors.
Alors, c'est moi, je vais t'aider, en fait, à
et oui, alors,
installer
là, j'ai besoin,
l'antenne.
Là, j'aurai besoin de ton aide, parce que ce fil faisant 20 mètres de long, on va le tendre à l'extérieur. Donc je te donne...
Je passe par là.
L'antenne à dérouler, donc l'antenne d'une vingtaine de mètres. En étant discrète.
Hop.
Voilà, donc on déroule. Et ah, c'est long, hein, quand même.
J'y vais.
Sinon, on la mettra un petit peu en biais.
J'y vais.
Alors, on va partir un petit peu sur la gauche, en
d'accord.
Diagonale. Pour essayer de la tendre au maximum.
Ok.
Vas-y.
Je tends.
Continue.
Il y a beaucoup encore ?
Vas-y.
Alors.
Plus l'antenne sera longue, meilleur sera le rendement.
Plus elle sera tendue, c'est ça ?
Oui, il faudra qu'elle soit tendue.
C'est bon, Didier ?
Ouais, il faut continuer.
Ah ouais. C'est énorme.
C'est bon là, ça commence à être bien. Voilà.
Il faut que ce soit haut ou pas?
Bah, il faut que ce soit le plus haut possible. Le plus haut possible dans l'arbre. Alors certains opérateurs radio clandestins installaient l'antenne à l'extérieur en ville et disaient à leurs voisins que c'était pour écouter la radio, grandes ondes, petites ondes, et bien entendu pas pour faire des émissions clandestines. Et ils quittaient le lieu de l'émission tout de suite, bien sûr. Oui, c'est bien là. Le plus haut possible. Oui. Bah, quand t'as l'habitude de l'endroit où tu mets ton antenne, en 10 minutes, c'est fait.
Ah ouais.
Tu vois. Donc le fait que l'émission se coupe brusquement quand on coupe le courant, ça permettait à l'opérateur de se dire ça, il faut absolument aussi que je cesse mes émissions, que je déménage. Non, normalement, il devait changer de lieu d'émission à chaque fois. Bon, ça c'est théorique, parce qu'après, il y a la pratique. Et...
On essaye comme ça, Didier ?
Quelle heure ? Peu à peu, la liaison s'est établie. En douce. Est-ce que tu es content ? J'entendais des signaux et le brouillage montait.
J'attends ma poume qui conduit la navette des Glovettes, gratuite pendant la saison de ski. Et là, je suis face à la stèle en hommage à la mémoire de Rémy Lifshitz et de Léa Blin, tué à l'ennemi le 1er août 1944.
Alors, j'ai un grand collègue, il faudrait que tu montes avec lui. Sa grand-mère, elle a donné des vêtements à Léa et ils étaient deux. Et une heure après, ou ça c'est le matin, et ils sont fait descendre là, ils sont tombés sur des Allemands, ils leur ont balancé une grenade.
Qui il
Léa et le mec, ils lui ont balancé une grenade et c'est là qu'ils en représailles, si tu veux, ils ont dû baliser et ils s'étaient équipés sa grand-mère, à mon collègue, il lui avait donné des vêtements de paysan. Et quand ils sont arrivés là, alors lui il me dit que c'est au milieu de la plaine des Clos, tu vois.
Ouais. Sous nos yeux là.
Là, par là. Et je lui ai demandé justement si c'était la croix. Il m'a dit non, c'est au milieu. Ils ont l'air de dire que c'est au milieu de la plaine des Clos. Bon, on est reparti.
Tu
sais que je fais que de pleurer quand on se découpe. Si jamais je regarde l'enterrement, là, je suis mort. Là. Si je regarde l'enterrement de, à la Madeleine, là, je suis mort.
Ce désir fou de vivre une autre vie, ce rêve en doux avec ses mots à lui. Quelque chose de Tennessee, cette force qui nous pousse vers l'infini.
À ce moment-là, le sol tremblait pour ce seul qui tendait l'oreille.
Pour ce seul qui tendait l'oreille.
Juste avant l'orage.
C'est en ce moment-là qu'on est rentré en contact.
C'était juste avant l'orage. Juste avant l'orage qu'on est rentré en contact.
Étant donné que je m'occupais de la Croix-Rouge, comme je l'ai dit, c'était ma couverture, on est arrivé avec un groupe. On a trouvé dans un champ, on a vu les gens du pays qui étaient affolés, qui partaient en preuve qu'on était des miliciens quand on arrivait. Et on a trouvé le corps de Rémi, puis on a vu une trace dans les blés, on est monté vers le hameau des Clauses, puis dans le long, on a trouvé sous un sapin le corps de celle qu'on ne savait pas être Léa Blatt. Léa Blatt, on l'a su après. Et elle dormait sous un arbre. Les Allemands l'avaient tué, nous le jour avant. Et nous lui avons donné de sépulture, et j'ai pris dans son sac. Pour son sac des choses de la résistance, elle avait un soutien à gorge où il y avait marqué LV.
N'hésitez pas à me laisser un message. Je vous rappelle dès que possible. À bientôt.
Salut Blandine, ici Marie Guérin. Je suis à nouveau Glovette. Voilà, et je continue à mener mon enquête. Et surtout, dans le témoignage audio de Philippe Blanc, c'est comme s'il y avait eu des témoins oculaires, parce qu'il des témoins directs de la scène.
Voilà, donc là, la bobine correspondant à la gamme de fréquence d'émission est placée, le quartz est en place, le manipulateur a été branché dans la partie émission, le récepteur possède ses écouteurs. Donc il faut procéder au réglage de l'émetteur. Hein, appel. 5. N. Portable. Sage portable. C'est une station portable, une station française. Qui est dans la nature, sans doute. Élu, BLU. F4 BLU, je crois. Portable.
a droit de lui dire qu'on fait une émission qui s'appelle Les Pianistes.
Oui, si tu veux.
Les Glovettes.
Oui, oui. Voilà. Bon, bah, c'est fait. On a fait une émission clandestine depuis les Glovettes avec une valise B2 de 1944, avec un correspondant, Bumblebee, qui n'était pas en Angleterre, mais en France, quand même à Pornichet, ça fait 800, 850 km d'ici, hein, avec une puissance d'émission d'une vingtaine de watts. Hein. Et donc, c'est émouvant de faire cette liaison radio dans un endroit où est venue une...
Une chiffreuse.
Une chiffreuse, Léa Blin, et qui malheureusement a été tuée en 1944. Donc elle a certainement peut-être vu cette radio qui était dans le Vercors, et elle a certainement décodé des messages qui ont été reçus par une radio exactement du même type, dans le sens Angleterre ou Alger, le Vercors, et puis dans le sens Vercors, Alger ou la Grande-Bretagne.
Voilà. On est à combien de Londres? À combien de kilomètres?
900, 950 à peu près.
Et d'Alger?
Pareil, ça fait à peu près la même chose. On a mi-distance entre Londres et Alger.
Espérance de vie d'un radio
amateur? Au début de la guerre, trois mois.
Ouais,
au début de la guerre, 3 mois.
On va plier, j'enroule l'antenne?
Voilà, bah maintenant il faut. Maintenant que l'émission est terminée, on ne va pas s'attarder ici, hein, parce qu'on ne sait jamais. On a peut-être été repéré par les voitures, la radio-volumétrie.
Est-ce que tu te souviens, toi, de Léa Blin?
De
Léa Blin?
Non, j'en ai entendu parler, mais je ne l'ai jamais vue.
Tu ne l'as jamais vue?
Non.
Mais tu es allée, toi, au Glovette, quand tu allais au Myrtille et tout ça, tu avais vu l'endroit où elle a été?
Oui, mais oui.
Et juste après la guerre, donc.
Voilà, oui.
Et qu'est-ce que ça te faisait... Qu'est-ce que ça suscitait comme sentiment de passer devant...
J'étais gamine, alors on se rend pas bien compte quand on est gamin. On se rend pas compte de la gravité des choses. On se rend pas compte de la gravité des choses.
De toute façon, la bascule. On y est. Nous n'aurions pas pu faire différemment. Tu attends l'orage. Le cœur en fièvre et le corps démoli. On est tapis comme jamais face au danger. Dans la grotte
pour tuer le temps de danse. Ainsi vivait.
On aurait pas pu faire autrement,
frère. Vercors. Demi volontaire armé. Stop. Urgence extrême, envoyé homme, âme, essence, tabac, d'ici 48 heures maximum. Impossible de résister efficacement dans conditions actuelles. Troupes armées, 3 minutes de tir seulement.
3 minutes de tir seulement.
Troupes armées, 3 minutes de tir seulement. Stop.
Over.
Oui, bonjour.
Bonjour Marcel. En fait, je te dis juste, si mercredi après-midi t'es dispo avec ton clairon, on va dans une grotte, tu pourrais jouer du clairon dans une grotte ? Grotte Roche.
Oh putain, c'est là-bas dans les gorges de la bombe, mais en plus, il y a des problèmes dans les grottes, dans les gorges.
Non, non, on est avec un radio amateur spéléo, spécialiste, qui nous a dit que c'était bon, elle était accessible, la grotte Roche. On y va demain.
Ah, d'accord.
On va faire des prises.
Alors, Léa et Rémi.
Dans le groupe Goderville, le 1er août 1944 et les jours précédents, sont partis de la grotte des Fées.
On va essayer de faire un contact avec ceux qui sont à la surface, là, à l'entrée de Grotte Roche. Le fond qui appelle la surface. La surface, êtes-vous à l'écoute pour le fond qui vous appelle ? De la grotte Roche, les pianistes. Le sous-sol pour la surface. La surface, est-ce que vous me recevez ?
Vous m'entendez, là ?
Oui, Marie, je t'entends, mais très faiblement. Là, je t'entends bien, Marie. Tu restes ton matériel branché, parce qu'on va peut-être se reconnecter un peu plus loin. Non, de votre côté, vous restez branché, il n'y a que moi qui arrête. Ah, ils m'ont déjà coupé.
Ok, on arrête les émissions.
Excusez-moi, monsieur. Bonjour. Je cherche la famille Rosan au Guillet. Vous êtes Monsieur Rosan, non ?
Comment ?
Vous êtes Monsieur Rosan ?
Ah non, non, pas du tout, moi. En blanc, là, vous voyez ?
D'accord, la petite, là.
Tout au fond, oui, là-bas.
Ouais, au milieu, entre le grand hangar et... Oui. Ok, voilà. Ça marche. Voilà. Ça, ah, c'est
oui.
Yves.
Ça, c'est Yves Rosan. Oui, voilà. Si vous travaillez sur les glovettes, il faut aller voir Yves Rosan.
Il
oui.
a vécu là-haut ?
Il a vécu là-haut.
D'accord.
Tout à fait.
Bah oui. J'essaye de réunir les derniers souvenirs. Et donc, il y a encore quelques témoins vivants de cette époque.
Yves, il y a vécu, pas longtemps, mais il a vécu à la ferme des Glovettes.
Vous avez des photos de la ferme ?
Non.
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 Il n'y a pas une trace
Non. Non, non, c'était... C'était un corps de ferme comme ça qui tenait, qui était assez long en fait. Et alors bien sûr, ma grand-mère aurait souhaité la garder la maison. C'est-à-dire qu'ils vendaient les terrains. Il y avait, je ne sais pas, il y avait une quinzaine d'hectares à peu près. Mais c'était dur. Moi, je me rappelle de ma grand-mère, comme elle a souffert dans cette ferme. Mais ils auraient aimé garder la maison. Parce qu'elle avait du charme, elle avait du caractère. Puis bon, il y a toute une histoire, quoi. Et malheureusement, ils n'ont pas voulu. En fait, elle a été démolie tout de suite.
Et Virginie, votre grand-mère, elle a vu les Glovettes construites ?
Non, elle a dû y passer 100 fois ou 1000 fois devant, parce qu'après, elle adorait aller se balader et tout. C'était le secteur, c'était les Glovettes, quoi. Ils allaient ramasser les fleurs ici et là. C'était toujours les Glovettes, puisque c'était chez elle. C'était ancien.
Et du coup, évidemment, je travaille sur le hameau des Glovettes. Évidemment, malheureusement, il y a un événement malheureux qui a eu lieu. Et en fouillant dans les archives, il y a Philippe Blanc, qui était prof de français au lycée polonais.
Oui.
Qui était aussi responsable de la Croix-Rouge et qui fait un témoignage à l'époque en découvrant les corps.
Ouais, et il note que ma grand-mère Virginie, elle a assisté à ça.
Non.
Non. On avait des champs, la Fauge, hein, vous situez la Fauge. C'est-à-dire, vous voyez, on part de la ferme en bas, comme ça, il y avait un petit sentier qui montait, là, on monte, on arrive à la hauteur des Glovettes, et là, ça, on appelait ça avant la Croix des Clous. Il y avait une croix, là, la Croix des Clous. Et quand les Allemands étaient là-haut, ils les avaient arrêtés, donc ils ont arrêté ma grand-mère, qui, elle, montait fanée, et ils ont arrêté, et elle a vu, et ça, elle me l'a raconté très souvent. Ouais. Et puis après, une fois que ça a été fait, bah, elle dit, hein, on peut passer. Ouais. Elle me l'a souvent dit, ouais. Ben, ils l'ont arrêté tout simplement, hein. Ils étaient, je sais pas, 10. Ils ont arrêté, ils ont fusillé, puis après. Enfin, ça, les détails, je peux pas. C'est pas très net. Hein.
Parce qu'elle partait fanée à quelle heure, à peu près ?
Ça devait être tôt le matin, hein. Ça devait être, je sais pas, moi, 8h, 10, pas, peut-être, ouais, 9h. Parce qu'elle avait dû, traire ses vaches, tout ça, avant de partir, et puis.
Ça correspond au témoignage, ils trouvent les corps vers 8h30.
Ouais. Elle avait une fourche, je me rappelle, elle avait une fourche sur l'épaule. Pour tourner le foin.
Last call, dernier appel, je répète, last call. Si tu es là, envoie. Nous, un signal. Last call.
Et volonté de prolonger la nuit. Le désir fou de vivre une autre vie. C'était Les Pianistes, The Last Call ou La Liaison Dangereuse. Une sorte de braconnage sur le terrain, dans les archives, une tentative d'épuisement. En hommage au mémorial de l'oppression, initié par Yves Farge, commissaire régional de la République. Le mémorial lance des enquêtes sur le terrain en 1944. En voici un extrait. Villard-de-Lans, 25 et 26 octobre 1944. Voir Monsieur Philippe Blanc, Chalet, Les Sapins, qui a fait partie des équipes d'urgence et a procédé aux exhumations. Philippe Blanc signale qu'un général allemand, voyant des croix, fait démolir ces croix. Thank you. Cette création 3D jouée et spatialisée en live est signée par les forces vives de notre équipe radio, Gilles Mardi-Rossian, Yvan Charby, Frédéric Changenet, Marie Guérin. C'était pour l'atelier de création sur France Culture, Aurélie Charon, Inès Duperron. Merci à Villa Glovette pour la rencontre avec le hameau. Merci à Mathilde Rouche, à Gros Caissoir et à son sound system, à Philippe Anus, à Séverine Leroy. On rend l'antenne. À vous.
Wow.